sensationnel.
Vous écoutez Radio U. Aujourd'hui et pour les semaines à venir, avec Maricela Lixa, on vous propose une toute nouvelle émission autour des arts audiovisuels.
Nous vous invitons avec Salomé dans notre bureau.
Cette troisième sensationnaire, après avoir parlé sur les thèmes du noir et blanc et de l'arc-en-ciel,
nous avons souhaité passer directement sur une couleur indispensable à un arc-en-ciel réussi. Enfin, pour ma part.
Nous allons nous pencher sur le magenta.
Le magenta va nous permettre d'introduire le principe de couleur qui se différencie par la matière ou la lumière. Pour cela, nous allons devoir introduire les couleurs primaires.
Alors, une couleur est dite primaire si elle n'est pas obtenue par le mélange d'autres couleurs, contrairement aux couleurs secondaires ou tertiaires, ou aux différentes nuances qui existent. Les couleurs primaires sont à la base de toutes les couleurs. Et ces trois couleurs fondatrices sont le cyan, le jaune, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, le magenta. Pour tout vous dire, il existe deux systèmes de couleurs, la synthèse additive et la synthèse soustractive. Le choix de ces systèmes dépend de l'utilisation que l'on veut faire de la couleur. On utilise la première quand il s'agit d'utiliser la couleur à travers la matière, dans une télévision par exemple. Et la synthèse soustractive, elle, comme une matière en peinture par exemple. En gros, pour ceux qui se souviennent des télés cathodiques, on pouvait voir des petits points bleu, vert ou rouge. Ce sont donc les couleurs primaires de la synthèse additive. Et pour ceux qui se sont essayés à la peinture, on retrouve les couleurs magenta, jaune et cyan. Et donc, vous l'avez compris, les trois dernières sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive.
Si vous avez ajouté un peu d'eau dans votre arc-en-ciel ou choisi directement le magenta ou une de ses variantes dans le cercle chromatique, vous avez peut-être obtenu du magenta.
Et on vous rappelle que le podcast sur le thème de l'arc-en-ciel est disponible sur le site de Radio U.
Le thème!
Bon, magenta, magenta, mais c'est quoi en langage populaire le magenta, Salomé?
Le magenta, Maricela, c'est le rose.
Rose funny, rose girly, rose sexy, rose thérapie. Voir la vie en rose, rose voyant, rose marrant, rose piquant, rose envahissante.
Le rose qui nous éveille, nous ravive et parfois nous apaise.
Le rose, c'est aussi un goût, un parfum.
Eh oui, le rose a la particularité d'être une couleur. Il y a une odeur et un goût.
En parlant d'odeur, et vu que l'on passe de la musique durant l'émission, je vous propose de commencer par un morceau que l'on va essayer de sentir. A Bouquet of Roses de DJ Quads.
l'utilisation en graphisme.
Alors que le magenta, c'est ce nom que l'on donne à notre tube de rouge primaire, que l'on mélange ensuite pour faire une multitude de couleurs selon les dosages.
Le magenta est un rouge violacé, devenu la référence pour la couleur rose primaire. Le magenta est une couleur obtenue à l'origine en 1858 par un colorant de synthèse d'aniline rouge violacé que l'on a appelé fuchsine ou roséine. Ce nom de couleur s'applique aux teintes similaires obtenues depuis comme le fuchsia, appelé comme ça d'après le nom de la fleur rose du fuchsia, nommée en hommage à Leonhard Fuchs.
Selon la théorie de la couleur, en synthèse soustractive, le magenta est une des trois couleurs primaires, avec le cyan et le jaune, utilisé pour l'imprimerie en quadrichromie, CMJN. Les pigments magenta absorbent les couleurs cyan et jaune. Le noir pourrait donc être remplacé par un mélange de cyan, de jaune et de magenta. Mais il est plus économique de disposer également du pigment noir.
Donc, vous pouvez retrouver le magenta dans votre imprimante. Il est contenu dans les cartouches d'encre qui sont utilisées. Ensuite, on obtient les couleurs en superposant des couches de pixels et en juxtaposant des points jaune, bleu, magenta et noir. Ainsi, on obtient des milliers de couleurs.
En synthèse additive, le magenta est une couleur secondaire, c'est-à-dire qu'elle ne peut être obtenue que par addition. C'est un mélange de lumière bleue et rouge. Un filtre magenta ne laisse passer que le rouge et le bleu. Il absorbe la lumière verte. Le magenta est la couleur complémentaire du vert.
Le magenta ne correspond à aucune lumière monochromique. Il n'existe pas de rayonnement électromagnétique magenta, ce qui signifie qu'on ne peut pas fabriquer de laser magenta. Cela amène certains à dire que le magenta n'est pas une couleur. Ce qui est vrai si on réserve le mot couleur aux radiations pures. On peut raisonnablement refuser le nom de couleur au magenta si on le refuse également au noir et blanc. Pas de traitement de faveur dans la couleur.
Le magenta intervient en sérigraphie. C'est à peu près le même système de juxtaposition, mais avec des écrans et de la peinture.
On vous partage une explication sur le podcast de l'émission, disponible sur le site de Radio U, et on abordera les autres couleurs primaires, le jaune et le cyan, dans les prochaines émissions de Sensationnard.
Bon. Pour finir cette rubrique, l'utilisation du magenta en graphisme, après avoir senti la musique A Bouquet of Roses, je vous propose de le goûter en morceaux avec Rosy Sky de Liquid.
La symbolique et signification documentée.
La symbolique des couleurs considère que le rose magenta représente la réalisation des besoins essentiels, naturels, vitaux et fondamentaux. Sa nature suggère l'ensemble des besoins. Il représente tout particulièrement le besoin d'amour, d'affection, de lien, d'interaction, le besoin d'être et d'exister, comme le besoin de jouer ou de rêver.
Pour clôturer cette rubrique et passer à la pratique du magenta, je vous partage une production maison qui me fait penser à un univers cosy et chaleureux dans un brouillard rose, le soir d'un vernissage Thinking Pink. Voici une prod Rose Vintage Sweet Lounge.
Pratique.
Vous voulez tester la puissance du rose ?
Pour cette émission, on vous laisse expérimenter la fabrication du rose. Ensuite, vous en ferez ce que vous voulez. Une peinture, un dessin, un mot, du baume à lèvres, colorez vos vêtements.
Le jeu est une caractéristique de cette couleur. Alors, on vous laisse jouer avec le rose, le fabriquer et en faire ce que vous voulez.
Comment fabriquer du rose ?
Alors, pour commencer, nous allons vous donner quelques astuces pour réaliser votre rose DIY.
Pour obtenir du rose plus ou moins concentré, utilisez du jus de betterave.
Disons que cet aliment dont on ne mangerait pas la peau et qu'il a souvent du jus, peut colorer un blanc en rose plus ou moins foncé selon le procédé.
Étonnamment, vous pouvez aussi réaliser de la teinture rose avec de l'avocat. On vous partage la recette en détail sur le site de Radio U.
Il existe aussi du très beau magenta en pigments naturels. La rose trémière ou le géranium rouge sont des fleurs qui nous apportent des nuances de couleur rose fuchsia.
Vous pouvez même directement utiliser les fleurs et en faire une empreinte sur un tissu.
Oui, envoyez-nous vos résultats.
La playlist de Marie Sedalixa.
J'ai trouvé ce son au visuel rosé et animé avec du rose également. Voici un remix de Blackpink intitulé Ice Cream.
En vrac, comme ça, autour de la thématique, on peut vous parler de quelques artistes et œuvres et on vous invite à jeter un coup d'œil dessus.
Bon, tu me parles de rose et d'une revue en vrac d'œuvres roses. Eh bien, je pense aux couleurs de notre logo sensationnaire, Salomé. Très rose, nuancé et dégradé. Je ne pouvais pas passer à côté sur ce thème, on n'aura pas trop l'occasion d'en reparler du coup.
Allez jeter un œil sur le site de Radio U ou de la page de l'émission.
Bon, autrement...
Un peu d'histoire de l'art, Maricella ?
Ok, ok. Je vous propose de vous plonger dans l'espace rose d'Anne Veronica Jensen. On peut jeter un œil sur son œuvre, mêlant fumée et lumière, qui est apparue au centre Pompidou. La semaine dernière, on vous a parlé du quartier arc-en-ciel. Il est pas loin de ce centre. Ensuite, j'ai sélectionné une œuvre rose pâle que j'ai trouvée dans un pavé des éditions Flammarion, mille et un tableaux à avoir vu dans sa vie. Le bouquin est rose magenta et blanc en plus. Je vais donc vous parler de l'œuvre de Frank Stella, datant de 1962 et intitulée Delaware Crossing. Ici, nous avons affaire à un format carré de 30 cm. L'œuvre a été peinte avec la couleur sortie tout droit du tube d'une certaine marque et étalée en un aplat coloré perturbé par des traits bien noirs et stricts, proposant une forme dynamique mais très géométrique, symétrique et occupant toute la toile. Ensuite, dans toujours les mille et un tableaux à avoir vus dans sa vie, j'ai remarqué l'œuvre de « Give me an inch and they'll take a foot » de Trenton Doyle Hancock de 2016 qui met en scène du noir et du blanc ainsi que les couleurs de l'arc-en-ciel et du rose sur un format carré d'1,52 m. C'est une œuvre picturale qui ressemble à une illustration, un dessin, avec une dose de surréalisme en prime.
Et dans la catégorie visuel et pop, qu'as-tu en tête, Maricella ?
Il y a l'inévitable éléphant rose, repris à toutes les sauces et détourné. L'éléphant rose est une icône des temps modernes, que ce soit en peinture, sculpture, gravure, photographie, dessin, figurine, etc. Il est aussi utilisé comme illustration et logo pour plusieurs marques et enseignes. C'est aussi un symbole, une expression et même un terme. L'expression a été utilisée pour la première fois par l'écrivain américain Jack London en 1913 dans le cabaret de la Dernière Chance. Un éléphant rose est une métaphore relative aux hallucinations causées par l'abus d'alcool ou tout autre produit stupéfiant. On parle de délirium très mince. Dans le dessin animé Dumbo des studios Disney 1941, on trouve une séquence culte, la danse des éléphants roses. Le chanteur Gainsbourg mentionne l'éléphant rose dans sa chanson Intoxicated Man, ainsi que Brel dans la chanson de Jackie. Dans le manga Young GTO, Shannon Junai Gumi, Shinamo Fujisaki se questionnent sur qu'est-ce que l'éléphant rose. Il s'agit d'un orgasme qui peut être atteint grâce à un garçon, tout comme lui disait une amie. Ganesha, corps d'homme et tête d'éléphant rose, est également une divinité hindoue.
Pour continuer sur le thème des animaux, je vous propose Rabbit, du collectif Gélitin. Le collectif a créé un immense lapin rose éventré, tripalaire, en haut d'une montagne du Piémont en Italie. En vous baladant dans la région sur Google Maps, vous aurez peut-être la chance de tomber sur ses vestiges.
Quand je pense à rose, actu visuel, je pense à Ayo Coralie. Attention aux yeux du rose, en veux-tu, en voilà. J'adore la peinture. Du coup, il y a de la matière. C'est très coloré, le make-up, c'est de la peinture et de l'expression sur soi. Je mets sa pratique, entre autres, entre art et transformisme. Bon, ensuite, en actu rose, ressemblant un peu à du Klett Abraham, il y a la campagne des petits cœurs roses autocollants qui est née sur la côte nord, notamment à Plouguerneau, afin de sensibiliser à la bienveillance dans les espaces partagés et à l'environnement. Que ce soit en ville ou à la campagne, ces petits cœurs se sont développés dans le but de compléter des œuvres existantes, insérées sur des panneaux de signalisation ou en simple décoration poétique. Ils sont collés sur n'importe quel support. Ces cœurs roses, c'est du street hacking à partir d'autocollants roses de récup, découpés avec amour à la main. Ils sont ensuite collés un peu partout, histoire d'envoyer plein d'amour. Ils sont également apparus dans différents endroits en France et à l'étranger. Les petits cœurs sont aussi passés dans plusieurs mains. Alors, qui sait où ils sont collés maintenant ? En avez-vous vu ? En tout cas, ils sont de bonne qualité et collent bien. J'ai entendu dire que cette campagne allait se relancer au printemps. Cœur, cœur, cœur !
En parlant d'amour et de roses, je peux vous parler de lubrifiant et littérature de Richard Healy. Ici, dans une lumière doucement rosée, on retrouve des chandeliers sur lesquels des livres, tantôt de vieux poèmes romantiques britanniques, tantôt des revues pornographiques, pendent, dans une atmosphère douce et acidulée. Ainsi, l'artiste nous met face à l'évolution du romantisme.
Oh, j'allais oublier, il y a cette incontournable Panthère rose. Avec son premier court-métrage oscarisé en 65, La vie en rose. Elle revendique son amour du rose en tant que peintre effrénée. Autrement, Rose, je pense à l'interface du compte Instagram Upcycling Girl on Road, logo rose pâle, création de bijoux recyclage. Oh, et puis je pense à ma carte Maricela Lixa avec un synthé dessus et du lettrage bien rose. Si vous voulez la choper, j'en ai laissé à la Radio U.
Pour continuer à voir la vie en rose, je vous invite à regarder l'œuvre de Laura Aldridge, California Wow, où, au milieu de l'exposition, on a une sorte de pièce formée de plexiglas rose depuis laquelle on peut voir les autres œuvres avec un filtre rose, et ainsi changer ses perceptions sur le reste de l'exposition.
Pour finir cette rubrique et pour faire un petit rappel sur les couleurs, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil sur la vidéo super intéressante de Dirty Biology qui s'appelle « Le rose n'existe pas ».
En plus de parler du rose, la vidéo nous parle des couleurs et de la perception que l'on a de celle-ci.
Cette vidéo complète nos précédentes émissions et quelques-unes des prochaines, alors allez voir.
Sensationnard.
Sensationnard, un lundi sur deux, de 22h à 23h.
Pour clôturer cette revue, je vous propose un mix que j'ai fait via une appli Jammaker intitulée Bass House.
Le thème vu par Maricela Lixa. Beautiful.
Sortir de cette sinistrose, de cette vie morose, tout en évitant la cirrhose. Rose, 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 flower, power. Love, love, lovers. Power, vive les fleurs et les couleurs.
Sensationnard. La chronique de Salomé.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste américain amoureux des tractopelles et qui voyait les choses en grand, Robert Smithson. Et je vais plus particulièrement vous parler d'une immense spirale rose au milieu d'un lac, aujourd'hui disparu, nommée Spiral Jetty. On va voir ensemble les idées de projet grandeur nature du jeune artiste américain, du land art au earthwork et la signification de cette spirale rose disparue à tout jamais, ou presque. D'abord, laissez-moi vous définir ce qu'est le land art. Si vous avez suivi notre émission sur le noir et blanc, vous devez déjà avoir une idée avec les colonnes de Buren. En gros, c'est quand l'art sort de ses murs, quand la nature devient la salle d'exposition. C'est de l'art en plein air. Évidemment, cette nouvelle forme s'inscrit dans le courant des pensées des années 70. La valeur marchande d'une œuvre devient alors théorique. Comment voulez-vous vendre une colline avec deux traits dessus à quelqu'un ? Smithson est un des précurseurs de cet art. Et à la fin des années 60, on appelle ça le earthwork. Pour les earthworks, l'art est non seulement dans la nature, mais la nature est le matériel pour cet art. Smithson, il nous explique ça derrière le concept de non-site et nous dit « C'est l'art qui contient le site, et non le site qui sert de support à l'art. Le non-site est un contenant qui contient un autre contenant. » En gros, il module les paysages en faisant des œuvres d'art et ainsi altère notre vision du monde. Attention, n'y voyez absolument pas une prépensée écologique là-dedans. Smithson a pour habitude de verser tantôt des camions d'asphalte dans une carrière, tantôt 30 tonnes de glu dans une prairie. Maintenant que vous avez le décor, je vous emmène en avril 70 dans le nord des États-Unis, dans l'Utah et plus précisément sur les rives de Salt Lake. Ce lac a la particularité de devenir rouge en été. Et donc, avec de la pierre blanche, on se retrouve avec une spirale rose. Cette jetée de 406 mètres de large et 500 mètres de long a nécessité 625 personnes et pas moins de 6783 tonnes de terre. Smithson a vu les choses en grand. Mais dès sa conception, cette sculpture est conçue pour s'effacer. L'artiste avait calculé que la spirale allait devenir blanche dans 10 ans. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, la spirale a disparu, submergée par le lac. Tout ce qu'il nous reste, ce sont des photographies et un film réalisé par l'artiste de 16 minutes. Smithson s'adresse dans ses œuvres au futur. D'abord, en nous laissant des traces, croquis, photos et films, mais surtout par l'œuvre en elle-même. Il nous montre notre propre finitude. La Terre, au sens purement géologique, disparaît. Et nous aussi. Il y a encore une chose très importante dans l'œuvre de Smithson dont je ne vous ai pas parlé, la science-fiction. On est au tout début des années 70 et la science-fiction commence à inspirer nos jeunes artistes. Comment ne pas imaginer que cette immense spirale rose sortie de Terre n'est pas l'œuvre d'extraterrestres ou une porte vers un monde parallèle ? Le land art et la science-fiction sont intimement liés, des antiques lignes de Nazca au crop circle qui apparaissent assez souvent à la une de nos journaux, entre explications scientifiques et complotistes. Smithson utilise des sites spécifiques, des lieux significatifs et particuliers. Quoi de mieux pour nous questionner qu'un lac rouge avec une jetée en spirale rose qui disparaît peu à peu ? Au final, les rêves de grandeur de Smithson l'ont rattrapé. Et 3 ans après notre spirale, il a entrepris une œuvre de la même envergure, nommée Amarillo Ramp, et mourra à 35 ans dans le crash d'un hélico alors qu'il tentait de filmer son œuvre dans son entièreté depuis le dessus. Certaines de ses œuvres ont résisté au temps, disséminées dans la nature un peu partout aux États-Unis. Mais à travers sa passion pour les formes géométriques et les tractopelles, Robert Smithson a ouvert la porte du land art à bien d'autres. Et surtout, nous a laissé la tête pleine de réflexions entre entropie, anthropologie, finitude et science-fiction.
Je vous ai choisi pour conclure cette chronique une compo intitulée Tech Maniac. Un morceau puissant et agressif, piquant et rasant, qui rappelle l'ère industrielle des tronçonneuses et des tractopelles. BTP tue, voici Tech Maniac.
Passons à présent à l'agenda. Pour rester dans la thématique et continuer encore quelques instants à voir la vie en rose, je vous conseille de jeter un œil sur l'œuvre d'Anne Veronica Jensen, Rose, dont Maricela vous a déjà parlé. Vous pouvez retrouver des extraits filmés et des explications autour de cette œuvre immersive entre brouillard et lumière sur le site du Centre Pompidou. Et si jamais les musées réouvrent un jour, dépêchez-vous d'y aller. Le centre fermera en 2023 jusqu'en 2027. Je vais vous conseiller, cette fois, non pas un musée, une expo, mais une destination pour les vacances. Le village de Veules-les-Roses. Ce petit village de Normandie, labellisé plus beau village de France, regorge de roses à tous ses coins de rue. Vous pourrez suivre le plus petit fleuve de France, la Veule, bercé par un doux parfum de roses entre moulins à eau et vieilles chaumières, avant d'arriver face à l'océan. Évidemment, c'est toujours mieux au printemps, encore plus lors de la fête de la rose. Il se passe aussi des événements chez nous, à Brest. Les ateliers des Capucins proposent deux expositions. La première, jusqu'au 30 avril, dans la médiathèque, sur les premiers livres. Vous pourrez découvrir de magnifiques vieux manuscrits. Aussi, jusqu'au 4 avril, dans la salle des expositions, vous pourrez voir les photographies de Tersic, qui pendant 14 ans a immortalisé des corps meurtris et immobiles. Mais les musées étant toujours fermés pour l'instant, je vous propose de faire venir la culture chez vous. Et cette semaine, je vous propose de visiter depuis votre salon deux musées. D'abord, le musée Grévin et ses statues de cire vous accueillent dans une modélisation 3D. Ça se passe sur timographie360.fr. Ensuite, le musée des arts et métiers vous propose une exposition virtuelle nommée Top Model, une leçon princière au XVIIIe siècle. Vous pourrez découvrir les robes de princesses et de comtes de l'époque. Il existe même une visite sous forme de jeu de pistes et d'énigmes. Ça se passe sur le site du musée, arts-et-métiers.fr. Et finalement, je vous propose un peu de poésie dans ce monde de brut, avec le serveur vocal poétique. C'est un serveur téléphonique créé par la compagnie Homme Théâtre, qui, à toute heure, vous propose des dizaines de poèmes différents. Prenez de quoi noter, pour vous laisser bercer par des poèmes en appelant le 03 74 09 79 52.
Pour finir cette rubrique et avant la fin de l'émission, je vous propose trois morceaux intitulés respectivement « La fleur rose »,« Spanish rose »,« La rosée de l'hiver ».
Sensationnel !
Sensationnard, un lundi sur deux, de 22h à 23h.
La playlist de Marie-Cédalixa.
Vous êtes sur Radio U 101.1.
Please give me a sign. Show me your mind. 'Cause I can't walk alone. Please give me a sign. Show me your mind, 'cause I can't walk alone. Golden horizon, I see the sun rising, but you're still drawing lines. Give me a sign. Show me your mind. 'Cause I can't walk alone. I walk up beside you. I turn my face to you. I'm home. When you decide, golden horizon, I see the sun rising, but
you're still drawing lines. See that you're grieving. I'll be the calm you need, and please reap the love that you.
On vous donne rendez-vous dans le prochain Sensationnard pour vous parler d'Orange.
Oui, on a hâte de vous retrouver pour un bon bol de vitamines à écouter pour cette fin d'hiver. Ça fait du bien et ça réchauffe le cœur. D'ici là, buvez du jus d'orange, pressé, bio et équitable, plein de soleil dans vos têtes et dans vos cœurs. Bisous Braizou, portez-vous bien et and the co-side.
Avec Maricela Lixa, on vous propose une toute nouvelle émission autour des arts audiovisuels.
Nous vous invitons avec Salomé dans notre bureau.
Go! sensationnard.